Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1 pour Clap. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons passer une heure ensemble car chaque samedi, oui, de 14h à 15h, on parle cinéma dans la joie et la bonne humeur. Comme le disait Alfred Hitchcock, pour moi le cinéma ce n'est pas une tranche de vie, c'est une part de gâteau. Et moi personnellement, le gâteau, j'adore et j'en redemande. Alors au sommaire de Clap cette semaine, nous nous replongerons dans la saga du boxeur le plus célèbre de tous les temps. C'est bien sûr Rocky, à l'occasion de la sortie du premier volet dans une version restaurée. Didier Alouche sera bien sûr avec nous pour son JT d'Hollywood. Et puis à 14h20, la Grâce entrera dans ce studio. Elle a un nom et un prénom même, c'est Anaïs de Moustier, l'actrice dont tout le monde parle. Exigeante, pétillante, talentueuse, charmante, elle est devenue incontournable dans le paysage cinématographique français en quelques années seulement. Nous évoquerons ensemble la comédie, la pièce rapportée où elle joue aux côtés de Philippe Catherine et Josiane Balasko, mais aussi, bien sûr, vous le savez, les films de sa vie, dont sa plus grande émotion de cinéma.
C'était Titanic, c'est sorti en 97, donc finalement j'avais 10 ans, donc j'étais pas si petite, hein, mais je crois que j'allais peu au cinéma avec mes parents quand j'étais toute petite. J'ai quasiment pas de souvenirs d'enfance au cinéma, mais ça je m'en souviens très bien. Je me souviens du choc amoureux déjà, oui, de Leonardo, qui est toujours présent dans mon cœur.
Vous n'êtes pas la seule.
Et puis voilà, c'est ce film qui bouleverse totalement. Donc c'est, franchement, je suis contente de l'avoir, d'être née en 87 pour l'avoir vu à 10 ans.
Et puis en dernière partie, bien sûr, mes critiques, vous les adorez, je le sais. Franck Vallière et Victor Bonnefoy viendront décrypter l'actualité du cinéma qui est assez chargée cette semaine, faut le dire. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Quelques notes de musique seulement et bien sûr, nous sommes immédiatement transportés dans les quartiers populaires de Philadelphie, là où Rocky Balboa, surnommé à l'époque l'étalon italien, fait ses débuts.
Je vais te dire ce qu'il faut. C'est un manager. Un manager. Je sais de quoi je parle, je sais tout. Parce que tu vois, je suis dans le business depuis 50 ans.
Et c'est comme ça que Rocky va croiser la route de son entraîneur Mickey et surtout va devenir Rocky Balboa. La suite, vous la connaissez, 3 Oscars dont meilleur film pour ce premier volet et le lancement de l'une des sagas les plus marquantes et lucratives du 7e art, des milliards de dollars de recettes au box-office mondial, des personnages attachants, Mickey, Rocky mais aussi Adrienne, Polly et puis une bande originale culte de Bill Conti ou encore les musiques de Survivor. Et ce qu'il faut bien sûr rappeler, c'est qu'au démarrage de cette success story, un acteur inconnu qui s'est battu pour avoir le rôle, Sylvester Stallone, et il le disait lui-même, c'était le rôle de ma vie, une chance qui ne se serait pas reproduite deux fois. J'étais donc prêt à tout pour faire le film, qu'importe si j'étais payé ou non. Il n'était pas question que ça se passe mal, j'étais déterminé à ce que ce soit bon. Et bon, ça l'a été, et bien plus encore. Alors avec ce rôle, la carrière de Stallone est définitivement sur les rails. Le succès planétaire du premier Rocky propulse Sly au rang d'icône et surtout va être à l'origine d'une série de films les plus incontournables du cinéma international. 7 opus vont suivre après celui de 1976, dont 5 suites et 2 spin-offs. Et le 24 novembre, si vous êtes nostalgique ou tout simplement comme moi, véritablement accro à cette saga, vous pourrez redécouvrir au cinéma le premier Rocky dans une version restaurée. C'est la première ressortie en salle officielle depuis 1977.
Allô, et c'est passé. Et mon copain, allez, suis-moi. Et vous allez déchirer ma mère. Allez, je vous en prie, descendez.
Allez,
Adrien.
Rocky.
Adrien.
Rocky.
Tu es là.
Je t'aime, Rocky.
En plus de 40 ans, Rocky est devenu le film incontournable de l'histoire du cinéma, comme on vient de le dire, mais surtout, la leçon qu'il nous enseigne est finalement intemporelle. Peu importe la finalité du combat, le plus important, c'est de donner le meilleur de soi et de tenir la distance pour aller au bout de ses objectifs.
Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
Encaisser sans jamais flancher, parce que Rocky, ce n'est pas simplement un film de boxe. Rocky, c'est une réflexion sur la vie à chaque opus. Alors derrière la caméra du premier volet, on retrouvait le réalisateur qui reviendra pour le 5 d'ailleurs, John J. Avildsen. Mais les épisodes 2, La Revanche contre Apollo Creed, 3, Rocky contre Clubber Lang ou encore 4, Rocky contre Drago, furent réalisés par Stallone lui-même.
Écoute, j'ai pensé à un truc. Si tu veux pas que je me bagarre avec Creed, tant pis. On se débrouillera autrement, on trouvera bien quelque chose.
Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi.
Quoi ?
Approche.
Quoi ?
Gagne. Gagne.
Mais bon Dieu, on a le feu vert. Saute dessus !
Eh bien, Rocky IV, figurez-vous, va bientôt s'offrir une nouvelle jeunesse. Alors avant de tout vous expliquer, je vous rappelle quand même l'histoire, même si vous la connaissez par cœur, dans ce quatrième opus, c'est Ivan Drago, Dolph Lundgren, qui affronte le champion du monde, Rocky Balboa, qui lui veut venger la mort d'Apollo Creed.
Tu lui mets la gueule en 3 épisodes, hein?
Je te jure, je vais te briser.
Ça veut dire quelque chose.
Hein, dis, Rocky, tu te souviens que je t'ai expliqué que je voudrais bien être à ta place?
Oui.
Eh ben, je veux plus.
Merci beaucoup.
Alors à l'occasion du 35e anniversaire de la sortie de cet opus, l'acteur-réalisateur donc Stallone a passé un peu plus de 9 mois à remanier le film pour en obtenir une version proche du premier opus. Ça s'appelle donc Rocky IV, Rocky versus Drago, The Ultimate Director's Cut. Et le film propose pas moins de 40 minutes de séquences inédites, dont des prolongations significatives des 2 scènes de combat et de la scène des funérailles d'Apollo Creed. Alors la date n'a pas encore été communiquée, mais ça devrait bientôt arriver en France. Il est notre Rocky à nous et d'un crochet, il nous balance les news depuis Los Angeles. Voici Didier Alouche et son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous les amis, j'ai des bonnes nouvelles. Ça va mieux pour le box-office américain et donc pour le cinéma américain à tous les étages. On a déjà vu avec les succès des Éternels, de Dune ou de Venom 2 que les blockbusters s'en sortaient plutôt bien depuis la reprise. Mais au rayon des autres films du cinéma indépendant, des films plus artistiques, des œuvres d'auteur si vous voulez, c'était beaucoup plus difficile jusque-là. Il est en effet bien plus facile de créer l'événement autour d'une énorme machine de studio et ainsi donner envie au public que de faire venir les spectateurs dans les salles sur des films plus fragiles. D'autant plus que des deux côtés de l'industrie, on a pris de sales habitudes sur ces films-là. Les professionnels les ont sortis presque exclusivement sur plateforme depuis le début de la pandémie. Et le public de ce cinéma-là a pris l'habitude de regarder les films indépendants chez eux. Les plateformes en regorgent. En plus, c'est un public un peu plus âgé que celui des blockbusters qui ne change donc pas facilement ses habitudes une fois qu'elles sont prises. Du coup, la plupart des arthouse cinémas des grandes villes américaines, ces salles justement spécialisées dans ces films-là, des salles en général un peu vieillottes mais au charme fou, étaient à l'agonie, proche pour beaucoup de la fermeture. Mais depuis quelques semaines, ça va mieux, grâce à 2 choses, l'effet course au prix et l'intelligence des distributeurs. La course au prix d'abord. Les films lancés dans la course aux Oscars sortent les uns après les autres en ce moment aux États-Unis. Et ici, on va voir les films qui participent à la compétition. C'est une tradition, histoire d'être toujours dans la conversation. Et surtout, ces films sont sortis intelligemment. Des petites sorties entre 300 et 500 salles. Oui, c'est une petite sortie en Amérique, une sortie normale, c'est 3000 écrans. Et certains blockbusters dépassent les 5000 écrans. Et des sorties qui privilégient ces fameuses art house pour leur donner un coup de main, bien sûr, et aussi entretenir le côté encore plus artistique du film. Ça plaît beaucoup aux votants aux Oscars, ça. C'est pas bête, et ça marche. Belfast, le film de Kenneth Branagh, sorti le week-end dernier, a fait 1 800 000 dollars de recettes. Des chiffres équivalents à ceux de The French Dispatch, Spencer, la bio de Lady Di avec Kristen Stewart, ou encore Come On, Come On. On est loin des chiffres pré-pandémie, mais par les temps qui courent, on se contente de ce qu'on a. L'important, c'est que ça progresse toutes les semaines. Le public américain retourne petit à petit au cinéma, la route sera longue. On ne reviendra peut-être jamais à la normale d'avant, mais l'important, c'est que l'envie d'un cinéma un peu plus exigeant, différent ou personnel existe encore assez pour sauver les art house en Amérique.
Merci beaucoup Didier et rendez-vous la semaine prochaine.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap. Mon invitée cette semaine est une actrice exigeante, pétillante, talentueuse, charmante qui est devenue incontournable dans le paysage cinématographique français en quelques années. Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir. Alors on parle cette semaine de La pièce rapportée, comédie d'Antonin Peredjatko, film dans lequel vous jouez aux côtés de Philippe Catherine et Josiane Balasko. Est-ce que vous pouvez nous faire le fameux pitch du film ?
Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est guichetière dans le métro et qui s'ennuie un peu. Enfin, voilà, on sent qu'elle est prête à vraiment à vivre plein d'aventures nouvelles. Et un jour arrive un garçon, donc le personnage joué par Philippe Catherine, qui cherche désespérément une explication pour réussir à prendre le métro. On comprend qu'il n'a pas l'habitude de le prendre parce que c'est un homme très très riche.
Impliqué demande un avion, je crois, au
démarrage.
Et
oui, voilà, en fait, il veut aller à l'aéroport et tout. Enfin, il est un peu perdu, le pauvre, parce que sa mère n'est plus là. Et en fait, elle lui indique le métro. Elle lui indique surtout qu'il a raté son avion, que c'est trop tard. Et donc, il lui propose d'aller faire une promenade. Ils partent ensemble se promener et en fait, il tombe amoureux. Il lui propose un mariage et elle s'installe chez lui. Et donc, cet homme vit avec sa mère comme un vieux garçon. Et sa mère est jouée par Josiane Balasko et elle est très, très, très protectrice. Et elle voit d'un très mauvais œil le fait que son fils se marie avec une jeune femme comme ça, pauvre.
Oui, qui n'est pas de son rang parce qu'il est très riche.
Exactement. Donc, elle va rendre ma vie un peu impossible au point de me faire suivre par un détective privé joué par William Legbill, qui lui-même n'est pas très performant dans son activité. Voilà.
Exactement. Et elle est aussi pressée d'avoir un héritier, mais on va en parler. On écoute juste la bande-annonce.
Comment je fais pour prendre l'avion ? Je vais à Antibes.
Ah, vous n'avez pas pris souvent le métro dans votre vie, vous ?
Oui, c'est la première fois.
Vous virez votre mère ?
Maman a souvent besoin d'aide, elle est en chaise roulante.
Au fait, je m'appelle Ava.
Et je m'appelle Paul. Je voudrais me marier avec vous.
Ah, bonne idée.
Quelqu'un en Rolls se marie avec quelqu'un du métro. À ton avis, qui y gagne ?
Bah tout le monde ! Puisque le propriétaire de la Rolls obtient enfin ce qu'il n'a jamais pu acheter. L'amour !
C'est mignon. Donc vous êtes la pièce rapportée.
Exactement.
Elle, quand même, Josiane Balasko, bon, elle est très drôle dans le film, mais c'est dur de l'avoir en belle-mère, non ?
Oui, oui, elle est vraiment sordide, quoi. Elle est affreuse, quoi. Elle est perverse, elle est méchante, elle me flique sur absolument
elle
tout. Elle est aigrie, ouais, elle est très très mauvaise. C'est vraiment une sorte de Tati Daniel plus, quoi.
Oui, c'est vrai. Votre personnage, Ava, c'est une amoureuse, c'est une sorte d'aventurière qui a toute une évolution aussi tout au long du film. Elle se laisse porter, mais elle s'affirme aussi au fur et à mesure.
Bah, c'est vraiment une figure un peu mystérieuse. C'est vraiment un personnage de fiction, quoi. Cette jeune femme, on se demande en fait un peu en permanence si elle est totalement idiote ou si au contraire, elle est très stratège et presque machiavélique. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui, en lisant le scénario, pouvaient penser ça. Et moi, je me suis posé la question et j'ai posé la question au réalisateur, Antonin Peredjatko, qui me disait qu'il n'avait pas envie de répondre à cette question, qu'il avait envie qu'on puisse se demander justement, mais qui est cette fille ? Est-ce qu'elle est folle ? Est-ce qu'elle est gentille ? Est-ce qu'elle est méchante ? Est-ce qu'elle est intelligente ? Est-ce qu'elle est bête ? Et donc, c'était très savoureux pour moi à jouer. Et puis surtout, moi, je l'ai vraiment abordée plutôt comme une jeune femme qui a une grande candeur, une grande innocence, en fait, qui ne maîtrise pas les codes de la société comme sa belle-mère, justement, et qui donc se laisse aller aux aventures diverses et variées, qui n'a pas peur de ses désirs et qui se promène dans le monde comme ça, comme dans un grand parc d'attractions.
Oui, qui semble une petite chose, mais qui finalement est beaucoup plus forte, je pense qu'elle veut bien le montrer.
Oui, oui, c'est vrai. Elle s'en laisse pas compter, elle se laisse pas diriger sa vie par cette dame. Elle se dit, mais enfin, pourquoi est-elle si méchante ? Enfin, vraiment, elle comprend pas du tout. Et en même temps, elle se laisse pas faire, c'est vrai. Et puis, elle se laisse pas aller à l'ennui, parce que finalement, avec ce Paul, assez vite, elle s'ennuie, quoi.
Bah, c'est ça. En même temps, c'est quand même pénible, l'ennui.
Tu ressors ce soir ?
Oh non, on ne sort jamais dans cette maison. Paul joue sur son téléphone, la reine-mère détricote les pulls de son mari et Raoul, le voiturier, fait des réussites dans sa chambre. D'ailleurs, il ne fait pas que jouer aux cartes, le Raoul. Surtout avec madame. Mais je te raconterai une autre fois.
Et demain, tu fais quoi ?
On se revoit, non ? Moi, je ne tiens plus à m'ennuyer.
Ben oui, la pauvre. En même temps, ce qu'elle dépeint, c'est quand même un petit peu embêtant. Est-ce que ça vous arrive de vous ennuyer, d'ailleurs, dans la vie ?
Moi, non, pas vraiment. Franchement, j'ai pas beaucoup le temps de m'ennuyer et si l'occasion se présente, j'avoue que je savoure assez. Enfin, je m'ennuie pas. Puis je suis vachement contemplative, donc je peux d'un coup m'arrêter à regarder le ciel, à me dire oh, qu'est-ce que c'est beau les nuages. Enfin,
vous êtes rêveuse, un peu comme votre personnage alors.
Oui, j'ai pas besoin de remplir mon temps d'activité.
C'est la première fois que vous tournez avec Philippe Catherine et on sent que ça a été une belle rencontre.
Ouais, c'était super. C'est vrai qu'il me fait beaucoup rire. Enfin, vraiment, ouais, il me fait vraiment beaucoup rire. Et puis surtout, il joue d'une manière tellement surprenante. C'est-à-dire qu'il a une sorte de liberté totale dans son interprétation. Donc là, je trouvais ça super parce qu'en plus, il est un peu un contre-pied du personnage. Parce que, il n'a pas franchement une tête de jeune premier. donc, je trouve ça super quoi, qu'il apporte cette fantaisie au personnage, cette folie au personnage de jeune bourgeois qui est le personnage de Paul. Et puis Philippe, c'est vrai qu'il est très libre et donc il propose des intonations ultra bizarres qui parfois sont un peu déconcertantes et en fait qui amènent de la poésie aux scènes. Quoi. C'est vraiment très agréable de jouer avec lui.
Il y a une vraie mélodie quand il parle et puis c'est vrai qu'il y a toute cette fantaisie. Il y a une fantaisie capillaire aussi.
Tout à fait, fantaisie capillaire. Apparemment, c'était son idée. Il a décidé de se rajouter un petit toupet qui lui donne beaucoup d'aplomb et qui rend le personnage encore plus savoureux.
Comme on l'entend un petit peu dans la bande-annonce, l'univers d'Antonin Pérez-Jacquot, il est assez original. Et comment est-ce qu'on peut le décrire ? Est-ce que pour vous, c'est un vaudeville, un vaudeville romantique ? C'est quoi ?
C'est vrai que c'est un univers assez burlesque avec... un vaudeville romantique, c'est bien dit. Disons que c'est absolument pas naturaliste. C'est un cinéma qui a un grand sens esthétique aussi. Il y a vraiment une recherche, un soin dans les costumes, dans les coiffures, dans les décors.
Je pense à la coiffure de Josiane Balasco.
Voilà, qui a un chignon incroyable. Et puis, dans les décors, par exemple, le cabinet de détective de Philippe Duquesne et de William Legbill, c'est très stylisé, c'est... Et il y a une dimension un peu intemporelle aussi, c'est-à-dire que ça évoque plein de cinéma, à la fois la Nouvelle Vague, à la fois les années 70. C'est un monde qui est le monde du film. Et dans les dialogues, il y a quelque chose de très précis qui ressemblerait presque à du théâtre. Donc il n'y a absolument pas d'improvisation. Enfin, pour nous, comédiens, moi, je me suis sentie un peu comme en charge d'être dans une bande dessinée, en fait.
C'est drôle ce que j'allais dire.
Ouais, on est comme des figures, les personnages sont très dessinés. Et puis après, ça n'empêche pas qu'il y ait de la modernité, qu'il y ait des références politiques ou sociales, parce que c'est quand même quelqu'un de très politisé, Antonin. Et donc, il y a tout ce mélange de styles qui en font, pour moi, un super cinéaste, quoi, avec une vraie singularité.
Vous aimez la comédie ces derniers temps ? On vous a beaucoup vu dans des comédies. On vous a beaucoup vu aussi dans des rôles de femmes amoureuses. C'est quelque chose qui vous... Qui vous plaît ?
Oui, j'adore. La comédie, vraiment, j'ai eu envie d'y venir. Et puis mais c'est comme si c'était un peu mon premier lien avec le jeu. Quand j'étais petite, en fait, je prenais des cours de théâtre et je faisais beaucoup rire et j'adorais j'allais beaucoup plus spontanément vers la comédie que vers la tragédie. Après, il se trouve que le cinéma, j'y suis rentrée grâce à Michael Haneke, donc c'était franchement pas comique. Et donc, ça a orienté, je pense, peut-être les propositions qu'on m'a faites ou ça a orienté mon chemin vers des choses assez graves. Et j'adore ça, mais j'ai du plaisir là à aller vers la comédie parce que déjà le comédien est quand même beaucoup plus en charge du rythme. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de plaisir comme ça du rythme et aussi une plaisir du corps. Le film que j'ai fait avant, Les Amours d'Anaïs par exemple, c'était un film où il y avait aussi beaucoup d'énergie. C'était un personnage qui avait une dimension comme ça physique et c'est plaisant. Et puis chez Quentin Dupieux aussi. Enfin, en fait, c'est pas différent des autres films parce que c'est toujours des auteurs que je choisis. Donc ils ont une vraie...
Il y a toujours un univers très marqué quand même dans ce que vous choisissez.
Ouais. Ça c'est important pour moi. Ouais. Qui est vraiment un cinéaste avec une vision. Et après, ça peut aller dans tous les genres. Quoi. Ça peut être... Mais en ce moment, c'est vrai que c'est souvent comique et ça me réjouit.
On parlera bientôt dans cette émission aussi de Cher Léa, le film de Jérôme Bonnel dans lequel vous chantez un peu, je crois.
Ouais.
Je ne l'ai pas vu encore. Et je sais que vous aimez beaucoup chanter. Vous avez pris des cours de chant. Ça vous a aidé d'ailleurs. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup ? C'est quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller ?
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire comme une activité presque physique. J'ai un piano chez moi. Je m'amuse à faire des petites chansons. Enfin, c'est un plaisir pour l'instant qui reste personnel.
Vous avez chanté avec Philippe Catherine sur le tournage ?
Non, pas du tout. Non, c'est vrai, non, absolument pas.
Vous aimez bien ce qu'il fait ?
Ouais, j'adore. J'adore. Il y a une chanson que je trouve vraiment extraordinaire qui s'appelle Un moment parfait, que j'écoute beaucoup, que je réécoute. Et puis oui, il a cette liberté totale. J'aimerais bien le voir sur scène, en fait. Je ne l'ai jamais vu et j'aimerais bien... À mon avis, ça doit être des spectacles assez incroyables.
Oui, parce qu'il est complètement habité. C'est un vrai personnage. Vous avez dit dans une interview, d'ailleurs, c'est vrai, malgré votre silhouette menue, finalement, vous avez quand même du coffre, vous avez une voix, vous ne vous attendiez pas à découvrir cette voix-là.
Oui, c'est ce que ma prof m'avait dit. Elle m'avait dit que j'étais un animal de foire parce que j'avais une voix de... J'ai une voix de mezzo déjà, donc c'est pas une voix très aiguë. Et puis j'ai une voix apparemment très large, donc comme si j'étais
puissante.
Un peu obèse. Et donc c'est assez surprenant. Mais c'est très agréable d'avoir conscience de ça. Ça nous renseigne un peu sur une force qu'on ne soupçonnait pas.
Donc une comédie musicale, ça pourrait le faire.
Ah ouais,
ça vous plairait.
J'adorerais.
Ça fait partie de vos influences.
Ouais, j'aimerais beaucoup. Non, pas spécialement. J'en ai pas beaucoup vu. En tant que spectatrice, franchement, je préfère les films. Les films classiques parlés, ouais, vraiment. Je suis pas une grande fan de Demi, tout ça. J'adore ça, mais disons que je suis pas là à me revoir toutes les 4 minutes les Parapluies de Cherbourg. Mais non, mais à faire, j'aimerais beaucoup. Ouais.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et voilà, c'est parti pour la suite de Clap. Je suis toujours en compagnie de mon invité Anaïs Demoustier, qui est là pour parler de la comédie, la pièce rapportée au cinéma le 1er décembre. Anaïs, le cinéma, il tient quelle place finalement dans votre vie ?
Oh là là, bah, il tient une place énorme. Il a déterminé ma vie déjà quand il est entré dans ma vie un peu par hasard quand j'avais 13 ans. Voilà, je suis devenue actrice un peu sans avoir le temps de le formuler, quoi, de formuler l'envie. J'avais formulé le désir de jouer, de prendre des cours de théâtre, mais j'avais jamais imaginé faire du cinéma et en faire mon métier. Après, une fois que j'ai fait le film d'Anneke, ça a été une évidence. Et donc aujourd'hui, il a une grande, grande place parce que, en fait, être actrice, ça, c'est pas juste un métier, quoi. Ça, disons que ça grignote un peu sur
c'est
toute la
vous.
Vie. Mais en même temps, je trouve qu'en tant que spectatrice, par exemple, j'ai pas du tout assez de temps. Enfin, j'aimerais vraiment voir plus de films. Donc je suis toujours en manque.
À quel moment vous êtes le mieux pour voir un film?
J'adore la fin de matinée, genre un week-end, fin de matinée.
Votre première grande émotion au cinéma, c'était quoi ?
C'était Titanic, c'est sorti en 97, donc finalement j'avais 10 ans, donc j'étais pas si petite, hein, mais je crois que j'allais peu au cinéma avec mes parents quand j'étais toute petite. Et là, c'était en vacances au sport d'hiver. On était à la Clusaz et on
le petit cinéma de montagne.
Et voilà, il neigeait partout et tout. Et on est rentré dans cette salle. On a vu Titanic qui durait 3 heures et ça a été le choc, un choc incroyable. Enfin, vraiment, je me rappelle. J'ai quasiment pas de souvenirs d'enfance au cinéma, mais ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens du choc amoureux déjà de Leonardo, qui est toujours présent dans mon cœur.
Vous n'êtes pas la seule.
Et puis voilà, c'est ce film qui bouleverse totalement. Donc c'est, franchement, je suis contente de l'avoir, d'être née en 87 pour l'avoir vu à 10 ans. Je pense
à
que c'est
10
un bon
ans,
âge.
C'est jeune, mais c'est vrai qu'on commence à se questionner sur ce qu'est l'amour.
Je pense que c'était le bon âge.
Votre meilleur souvenir de cinéma ?
C'est Annette de Léos Carax. C'est très récent.
C'est récent, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous l'avez découvert à Cannes ?
Non, je l'ai découvert à Paris, justement en fin de matinée, un samedi. Et je l'ai vu en différé par rapport aux autres. Quoi. Je l'ai raté un peu. Je ne l'ai pas vu pile quand il est sorti, parce que j'étais en tournage du film de Jiménez. Et donc là, je savais qu'il fallait que j'aille le voir et tout. Et puis, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai été vraiment complètement transportée par le film. J'ai été transportée par son esthétique. J'ai trouvé le travail de Caroline Champetier incroyable. Et puis, bon, bah voilà, Adam Driver, c'est un des acteurs que je préfère. Marion Cotillard, je la trouve dingue dans ce rôle. Ouais, j'étais à la fois, j'avais des larmes de tristesse devant cette histoire et en même temps de beauté, quoi. Même quand ils marchent et qu'ils sont heureux dans la forêt, main dans la main. C'était vraiment c'était merveilleux.
L'ouverture du film aussi qui est spectaculaire, ils chantent tous. Et c'est vrai que ce film, il est dingue. Et en fait, ils ont vraiment joué en chantant, en fait.
Oui, je crois que c'est des sons directs.
Exactement.
Et justement, voilà, on parlait de comédie musicale. C'est que souvent, pour moi, il y a un aspect un peu désuet qui peut ne pas me donner envie. Et là, il y a une modernité folle. Et c'est comme un fil tenu, enfin, du début à la fin. Je ne sais pas comment dire, il nous emporte dans un espèce de flow mélodieux incroyable, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime pas quand dans les comédies musicales, d'un coup, on se dit « Ah, ça y est, ils vont chanter ouais. !» Et donc, c'est un peu chiant, quoi. Alors, la chanson démarre, on entend que le mixage, ça marche pas. Enfin, là, c'est une sorte de perfection, quoi. Je trouve que c'est un geste de cinéma parfait. Ouais. Et puis, par ailleurs, sur les questions de fond, je trouve que c'est un film ultra important par rapport à tout ce dont on parle en ce moment, les féminicides et tout. Je trouve que c'est un film important parce qu'il rend grâce à la complexité de tout ça, quoi. Et cet homme, il est monstrueux. Au début, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, il est en train de rendre exceptionnel un homme qui, en fait, tue sa femme. Et en fait, non, pas du tout. Le film est beaucoup plus compliqué que ça. Le film le punit, quoi. À la fin, il dit, arrêtez de me regarder. Et sa fille lui dit, tu n'as plus personne à qui aimer. C'est
ah oui, non, le film, il est...
C'est vraiment, c'est puissant.
Ouais. Non, il donne la chair de poule et c'est bon, il y a tout un twist qu'on vous laisse découvrir si vous n'avez pas encore vu Annette. Et c'est vrai que moi aussi je vous le recommande, mais c'est brillant en fait. C'est tout plein, ouais, tout plein de métaphores et il y a une scène à la fin, cette scène dont vous parlez où il est face à sa fille qui est.
Oui, il y a des choix formels, il y a des choix de fond et il y a, enfin, c'est un grand film.
Ça raconte beaucoup de choses, je suis d'accord. Votre séance de cinéma la plus dingue?
Alors ça, c'était le film de Haneke justement que j'ai fait quand j'avais 13 ans. Et c'est la plus dingue, c'est parce que c'était à Cannes déjà et que c'était la première fois que j'allais dans cette grande salle qui est incroyable avec cet écran gigantesque, enfin qui me semble à chaque fois toujours plus grand. Enfin, à chaque fois que je vais au Festival de Cannes, je rentre dans cette salle un peu comme dans une église, quoi. Il y a quelque chose d'assez magique, je trouve. Même si techniquement, c'est peut-être pas la meilleure salle. Je sais pas, je suis pas aussi précise que ça, mais en tout cas, c'était la première fois que je me voyais sur un écran. Et voilà, c'était le film qu'on avait fait pendant 2 mois et demi avec Michael Haneke, avec tous mes camarades du film. Et le moment de découvrir le film, c'est toujours une grande, grande émotion. Et là, c'était à Cannes. Et en fait, le film a été pas très bien reçu par le public. Enfin, le film, voilà, a suscité la controverse. Et c'est ce que Haneke voulait. Hein. Lui, il était très content.
C'est souvent le cas.
Et ouais, ouais. Et donc, il y avait des gens qui sifflaient, il y avait des gens qui huaient, il y avait des gens qui claquaient leur siège pour montrer leur mécontentement, pour signifier qu'ils s'en allaient. D'autres, au contraire, qui se levaient en applaudissant. Enfin, c'était une sorte de chaos incroyable. Et donc, voilà, je vais pas être égocentrique en donnant cette réponse, mais j'avoue que c'est ma séance de cinéma la plus folle. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprenais absolument pas.
À 13 ans seulement, oui, c'est ça. À 13 ans, vous aviez pas vraiment conscience des codes de ce métier, de ce que ça signifiait.
Je me disais juste, ça se passe trop mal. Enfin, où les gens sont très très mal élevés. Enfin, je comprenais pas du tout. Et après, on m'expliquait, il a fait ça pour déranger et ça a fonctionné. Voilà.
Le film qui vous fait le plus rire?
C'est vraiment basique, c'est Les Bronzés font du ski. C'est un peu chiant de répondre ça, mais c'est vrai.
En même temps.
Je suis désolée, voilà. En plus, j'ai rencontré Josiane, là, c'était super.
Et, oui.
Et je me rendais compte d'ailleurs que j'ai tellement vu ce film qu'en fait, il y a des intonations, il y a des tonalités de la voix de Josiane Balasko aujourd'hui qui tout de suite me font plonger dans les scènes des Bronzés, quoi. Alors je me suis vraiment retenue de trop lui en parler parce que je pense que vraiment je pense qu'ils n'en peuvent plus,
toute la troupe du Splendide. En même temps, je crois qu'ils en sont tellement fiers aussi. C'est quand même tellement rare de faire quelque chose d'aussi culte.
Ouais.
C'est ça, c'est un vrai tube.
Ouais.
C'est qu'on peut se repasser les répliques d'une scène culte, une réplique culte. Vous pensez à quoi par exemple?
Je sais pas, il y en a tellement. Et dis donc Popeye, le magasin est fermé à 7h, hein, pas 7h moins le quart. Puis tu me passeras un coup de balai, parce qu'hier, c'était vraiment dégueulasse.
On a ça aussi.
Oh, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi.
Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux.
Stop!
Le pauvre Jean-Claude Duss. Ouais, Jean-Claude Duss, on entend le bruit des skis qui fait tomber du télésiège. Bon, il y en a tellement, hein. La scène dans le refuge, enfin voilà, portée de bâton, c'est vrai que
c'est une farandole.
C'est un film qui fait du bien, c'est thérapeutique. Le film que vous revoyez sans cesse?
C'est vrai que c'est Loulou de Piala, c'est mon film. Il n'y a pas vraiment de film que je revois sans cesse, hein. Comme je vous disais, j'ai pas assez de temps et tout, je trouve que... Mais c'est vrai que c'est le film que j'ai le plus revu. C'est un film de Piala que j'aime énormément avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert qui sont vraiment au sommet de leur beauté, de leur, je sais pas, de leur flamboyance.
C'est un triangle amoureux.
C'est un triangle amoureux. Il y a aussi Guy Marchand qui est génial, qui joue le mari un peu plus bourgeois et normal d'Isabelle Huppert. Et voilà, c'est l'éternelle histoire de la jeune femme qui en fait est attirée par le bad boy. Et le bad boy, c'est Gérard Depardieu qui est incroyable. Donc ce film, on a envie d'y être, et puis on a envie d'y être aussi parce que c'est
une sorte
de pari.
Oui, parce que c'est aussi le film dans lequel vous aimeriez vivre.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est un pari qui n'existe plus, quoi. Je sais pas comment dire.
Les années 80.
Voilà, c'est le pari des cafés enfumés, des jukebox, des cabines téléphoniques au sous-sol du café.
C'est ça. Pas de téléphone portable.
Ouais, il y a un truc. Voilà, lui, il a son blouson en cuir. Enfin, il y a tout un truc un peu comme ça de fantasme d'un pari que j'ai pas connu et qui me fait rêver.
Votre comédie romantique préférée?
C'est Elle et lui.
Love Affair.
Ouais, ça c'est vraiment très très beau.
Alors quelle version?
Alors moi j'ai vu que la première. C'est avec ça. Charles Boyer et je ne sais plus comment elle s'appelle, Irène, je ne sais plus comment.
C'est un film de Léo McCarey et c'est vrai que c'est assez rare, mais il a fait son propre remake plusieurs années, je crois 20 ans plus tard, quelque
voilà,
chose comme ça.
Exactement. Et en fait, moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu un coup de foudre pour ce film et je l'ai vu vraiment récemment, donc je n'ai pas encore vu la deuxième version. Et la première, c'est sublime, c'est vraiment...
C'est déchirant.
Vous voyez ? Ouais, c'est déchirant. Ouais. Il se donne rendez-vous à l'Empire State Building.
Elle ne peut pas venir.
Elle ne peut pas venir parce qu'elle a un accident. Enfin, c'est vraiment le mélodrame par essence. Et c'est magnifique.
C'est considéré comme l'un des plus beaux films de tous les temps et à juste titre. Et c'est vrai que c'est magnifique.
J'étais contente de le découvrir. C'est bien aussi quand on n'a pas vu certains films. Et d'ailleurs, parfois, moi, je dis aux gens, t'as pas vu ça, mais t'as trop de chance. C'est génial. Enfin, franchement, c'est vrai qu'il est jamais trop tard pour le cinéma. C'est super.
Bah moi, grâce à cette séquence dans l'émission, je prends note aussi quand j'ai un film à rattraper ou quand j'ai un film que j'ai pas vu depuis très longtemps et que j'ai envie de revoir. Je me refais ma liste de classiques. Le film que vous regrettez de ne pas avoir découvert au cinéma,
C'est L'Aurore de Murnau, c'est ça que j'ai dit. Oui. Ouais, ça c'est sûr. C'est un film vraiment qui est dans, je pense, dans mon top 10.
C'est aussi l'un des plus beaux films au monde, je crois.
Ouais, sublime. Et en fait, c'est vrai que j'ai découvert sur un petit écran, je pense sur un ordinateur. Et ça a été un choc immense et j'ai adoré ce film. Et après, je me suis dit, c'est vraiment un film à voir au cinéma, justement parce qu'il est muet, puis parce qu'il y a ces images comme ça très anciennes.
Il y a une plastique particulière.
C'est vraiment la lumière. Je sais pas comment on appelle ça, c'était du cinéma expressionniste presque. Mais en tout cas, après, je l'ai revu parce qu'il passait au Christine 21 dans Paris, là, et je l'ai revu après sur grand écran et c'était génial.
Ah, vous avez réparé ça, super. Ouais. Et vous nous aviez dit Funny Games aussi d'Haneke, bon, dans un autre registre.
Ah oui, Funny Games d'Haneke, ça, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma, mais en même temps, heureusement pour moi, parce que je l'ai vu chez moi et j'avais tellement peur que je mettais pause, en fait. Régulièrement, je faisais des pauses, j'allais boire un verre d'eau, je respirais un peu, je me disais, allez, j'y retourne, et je remettais play. Donc là, au cinéma, j'aurais été prise au piège. Je ne sais pas si j'aurais tenu. Mais je me dis, ça doit être une expérience.
Je suis d'accord. Le film que vous conseillez à un enfant ?
Alors, je conseille toujours mon film d'animation préféré, qui est Kiki la petite sorcière de Miyazaki.
L'animation japonaise, ils sont très forts.
Très forts, c'est sublime. Oui, c'est vrai que le dessin est magnifique. Et puis, tout ce que contient le film par rapport à l'émancipation, à la libération des jeunes filles. Enfin, voilà, c'est vraiment l'histoire d'une petite fille qui part à l'aventure sur son balai pour devenir sorcière. Enfin, voilà, c'est vraiment très bouleversant, très beau. Et l'émancipation pour un enfant, c'est la clé du succès.
Ouais, c'est vrai. Et c'est d'être bien accompagné dans cette phase-là. Votre bande originale de film préférée, celle qui a le plus marqué votre vie ?
C'est Psychose d'Hitchcock, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est marrant, parce que c'est vraiment... Ce film, je l'ai vu aussi assez jeune. Puis après, j'ai fait un bac cinéma, puis on a étudié en cours. Donc, je l'ai beaucoup vu d'extraits. C'est un film que j'aime énormément. C'est parmi mes films préférés. Et voilà,
la musique de Bernard Herrmann.
C'est hallucinant, ouais.
La musique de Psychose, elle est incroyable.
Et j'ai souvenir de elle en voiture, là. Ouais, voilà, ouais.
C'est l'un des...
Puis après, il y a la musique dans la douche.
À la table de la douche.
Oui, c'est du son qui participe complètement.
Strident.
Qui participe complètement à l'effroi, à la narration. Enfin, c'est génial. Oh non, mais c'est vrai que c'est hallucinant.
Bah, c'est le génie d'Hitchcock et c'est vrai que la partition de Bernard Herrmann qui est brillante et qui colle parfaitement au film, ce suspense, ouais, cette scène de la douche. Bon, on voulait éviter là parce qu'il est quand même samedi 14h30 et le bruit dans cette scène-là, il nous transperce, et la musique dans la chair.
Quand elle est en voiture et tout, c'est vraiment une musique qui accompagne le stress, qui fait monter la tension en permanence et qui... Et donc après, les moments de silence dans la maison, quand ça revient du son direct et tout, ils sont encore plus poignants.
Vous avez vu la série dérivée du film ? La série Bates Motel qui revient sur l'enfance de Norman Bates. Qui est le tueur de Psychose.
Ouais.
Il faut regarder cette série.
Ouh là là.
Avec Freddie Highmore, c'est vachement bien.
Ok.
quel serait le titre du film de votre vie ?
Vivre sa vie.
De Godard,
ouais. Bah déjà, c'est un titre que je trouve magnifique.
Bah oui.
C'est une affiche de film que j'aimerais bien avoir chez moi. Et bon, bah, j'y penserai, quoi. Enfin,
ça doit pouvoir se faire.
Ouais. Et je trouve que c'est un... Bah oui, ça correspond bien. Enfin, j'essaie de vivre ma vie.
Et c'est drôle parce que c'est un film en 12 tableaux. Alors bon, ça, c'est, l'histoire n'est pas similaire, mais ça rappelle un peu Julie en 12 chapitres aussi.
Ah oui, c'est,
et
vrai.
C'est un peu ça aussi. Elle essaye de vivre sa vie ouais, du mieux possible.
Vrai. Oui, ça doit être une inspiration pour lui, c'est sûr. J'ai adoré ce film. Magnifique.
Ouais, c'est un très très joli film. Merci beaucoup Anaïs de Moustier. Je rappelle donc que la pièce Rapportée, vous jouez aux côtés de Philippe Catherine et Josiane Balasko, sera en salle le 1er décembre et qu'il faut aller le voir parce que c'est vraiment le feel good movie sympa et puis atypique et singulier. On avait envie de voir des films différents aussi en ce moment. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de Clap en compagnie de mes critiques du jour. On va vous parler des films à voir ce week-end au cinéma. Mais tout de suite, Anaïs de Moustier, avant de vous laisser filer, je vous laisse choisir la chanson qu'on écoute.
Ah génial, écoutons Within de Daft Punk.
Eh bien c'est parti, à tout de suite sur Europe 1. Choisi par notre invité du jour, Anaïs de Moustier.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous parle des dernières actus cinéma. Et cette semaine, on vous a préparé une sélection 100% française. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et c'est une belle semaine pour le cinéma. Alors à mes côtés, pour en parler, ils sont là, ils sont toujours présents. Et c'est un bonheur, Victor Bonnefoy et Franck Vallière. Bonjour à tous les deux.
Mais qu'est-ce qui se passe de coup, c'est quoi cette offensive de charme là?
Un élan d'amour.
Bonjour.
Moi j'aime bien. Bonjour.
Vous êtes en forme?
Oh, en forme de quoi, je sais pas, mais on est là.
Elle était pas mal celle-là. Bon, eh bien moi je sais que vous avez hâte de parler des sorties du week-end, mais on va jeter un œil du côté des chiffres du box-office. Et le box-office tient un nouveau leader, à votre avis ? Tac, tac, tac.
Les Éternels.
Mais non.
Non, il y a eu d'autres trucs aussi.
Eh oui.
Aline.
Exactement, c'est Aline qui débarque à la première place du box-office avec 600 000 spectateurs en une semaine d'exploitation. On est très très content pour Valérie Lemercier et je pense que le film ne va pas s'arrêter là, loin de là. Aline a donc repoussé les héros Marvel dont Victor faisait allusion, les Éternels,
c'est tant mieux.
qui sont à la deuxième place donc, du box-office avec 470 000 spectateurs, soit un cumul de plus d'1 246 000 après deux semaines d'exploitation dans les salles. Et puis sur la dernière marche du podium, une idée ? J'aime bien vous faire des
pour être James sûr Bond, que Venom.
James Bond, exactement. Voilà. Mourir peut attendre, qui atteint désormais pas loin des 4 millions, 3 800 000 spectateurs en un mois et demi. Voilà pour les chiffres de la semaine. Benoît Magimel était venu nous parler du très beau film Amant, film européen, un film de Nicole Garcia qui est sorti en salle donc mercredi, un triangle amoureux avec Pierre Ninet et Stécie Martin aussi au casting.
Ça te plaît ?
Oui.
Tu as trouvé où ce gars ? Dites-moi, vous savez conduire ? Je dois aller demain matin à Zurich, un aller-retour dans la journée. Enfin, si vous êtes libre. Oui ?
Oui.
On s'est retrouvés. On se quitte pas.
Qui c'est qui a dit que les sentiments sont toujours réciproques ?
Qu'est-ce que t'as fait ?
Tu penses qu'un type comme ça, ça s'achète pas ?
On va tout de suite écouter ce que vous en avez pensé.
Franchement, c'était super bien. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond comme film. Si on doit noter sur 5 sur 5.
Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris par le film. Mais en particulier, Benoît Magimel, j'ai trouvé vraiment formidable sur ce film. Même en étant assez loin des relations comme ça, finalement, on peut facilement se laisser prendre dans l'histoire et apprécier le film.
Et puis, c'est mon coup de cœur cette semaine. En effet, pour s'entendre, le nouveau film de Pascal Elbé. Le réalisateur parle d'un problème personnel, la perte de l'audition. Mais il choisit d'en rire et nous livre une comédie romantique drôle, douce et profondément humaine.
J'en peux plus là d'être réveillée tous les matins par votre réveil de merde.
Vous avez pensé à mettre des boules qui est-ce ?
Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça ?
Vous n'entendez rien.
J'entends bien ou j'entends rien ?
Rien.
Rien ?
Oui, rien.
J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule.
Baisse la garde, écoute ton cœur, fonce là.
J'ai pas votre numéro.
07 54.
Merci.
Alors Franck Vallière.
Eh bien écoutez, c'est cousu de fil blanc, on devine tout, mais en même temps, il y a un charme fou. Donc on est bien avec eux. Sandrine Kiberlin peut lire la recette du Nesquik en boucle. Moi, je ris tout le temps. Pascal Elbé a un charme fou. En plus, il connaît bien le problème. Donc il a fait un super boulot sur la vulgarisation de ce que ça veut dire que d'être un peu malentendant, voire, pour ne pas dire sourd. C'est la semaine du handicap. Il serait dommage de passer à côté de ce joli film qui, certes, est cousu de fil blanc, mais quand même, on passe un très très bon moment.
C'est hyper efficace. Il y a aussi François Berléand qui est très drôle, Claudia Tagbo. Et c'est vrai, c'est un film qui fait du bien. C'est un feel-good movie avec de l'amour, de l'émotion. Une petite fille aussi qui joue remarquablement bien.
Elle est mignonne.
Elle est mignonne, elle joue la fille de Claire, la voisine, qui ne parle plus suite au décès de son père et qui va se prendre d'affection pour le personnage de Pascal Elbé.
Et il y a Marthe Villalonga
aussi, voilà.
Oui. Ah non, quitte à citer tout le monde, il y a aussi Valérie Donzelli et Antoine Gouy qui jouent les colocs de Sandrine Kiberlin et qui sont formidables. Ouais.
Exactement. Alors, vous en avez pensé quoi, vous ?
Ah, c'était un bonheur. C'était une guimauve. C'est un bon moment. C'est une comédie sentimentale qui est très agréable.
C'est assez charmant, quoi. C'est un film très agréable avec des super comédiens, surtout.
Bon, j'ai un petit faible pour Sandrine Kiberlin, donc ça, c'est très bien. Ouais, très très beau film.
C'est bien traité. J'aime bien, moi, Pascal Elbé comme réalisateur. C'est de la comédie, mais c'est subtilement fait.
Voilà, c'est subtilement fait. Allez, on passe à une comédie cinglante. Je vais vous laisser en parler, Franck et Victor. Orange Sanguine.
Oh, qu'est-ce que c'est formidable. Alors, Orange Sanguine, réalisé par Jean-Christophe Meurice, qui à la base vient du théâtre des Chiens de Navarre, et qui a toujours aimé déranger, qui a toujours aimé provoquer. Et c'est ça, ce qu'est Orange Sanguine, un film provoquant. Et c'est ça qu'on aime.
Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation.
On avait quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, on en fait, hein.
On a été qualifié déjà.
D'accord. C'est très hypothétique, malgré tout.
Ah, le ministre. Comment il va ?
Il faut mettre 22 milliards sur la table.
On ne veut pas diviser les Français. On veut, bien sûr, un pays uni.
Nous voulons tous un pays uni.
Et donc Orange Sanguine, pour moi, c'est un des vrais moments méchants de l'année. Voilà, c'est pas une comédie que vous allez voir en disant oh tiens, je vais me détendre, parce que le film est vraiment en deux temps, un premier temps sympathique et un deuxième temps où il va aller chercher quelque chose de plus gore, quelque chose de plus trash, une vraie haine de l'humanité en fait. Et c'est là où j'aime Jean-Christophe Meurice, c'est là où je me reconnais en lui, c'est que moi aussi je déteste les êtres humains. Et de la même manière que lui déteste les êtres humains et nous le montre dans le film, nous dit voilà, c'est la vraie comédie méchante de l'année, cinglante, où on sort un petit peu secoué, un petit peu retourné, avec des comédiens formidables, des apparitions de Blanche Gardin, de Vincent De Dienne. Toute la scène d'intro est d'une méchanceté gratuite horrible, je trouve ça formidable.
il dit Jean-Christophe Meurice d'ailleurs, le rôle du cinéma c'est de montrer le mal, Franck Vallière.
Oui, pourquoi pas. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'est qu'un moins de 12 en fait. Je pense qu'il aurait même sans doute préféré un moins de 16 pour sa bonne pub, parce que passons sur cette scène où on danse sur Chem Chem Chem. Plus jamais je ne danserai sur ce morceau en face d'une femme. Je ne sais pas si on peut parler de cette scène, si elle est révélée dans la bande-annonce, mais il y a un problème de sécateur et de testicules. Mais un truc de... Enfin, pas de sécateur, de couteau électrique. Enfin, c'est... Heureusement que ça en passe par la satire, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il a un moins de 12. Je trouve que c'est dommage malgré tout que ça en passe par la satire, parce que je trouve que le film aurait pu être tellement puissant, ça aurait pu être une espèce de collision. Collision était sur la mésentente entre les gens. Là, il y a un truc sur le pouvoir. Qui contrôle qui? Comment prend-on le contrôle? Et quelles sont les conséquences du contrôle?
Mais c'est très dans l'époque, c'est tant mieux.
Oui.
Et puis un autre film qui lui est plein d'espoir, c'est Haut et fort de Nabil Ayouch, un film palpitant, touchant sur la jeunesse marocaine qui se libère grâce au rap. C'est un film qui a été présenté au dernier Festival de Cannes. Victor Bonnefoy, vous avez aimé?
J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Déjà, quand il y a une proposition qui est la comédie musicale rappée, j'aime beaucoup. Et puis surtout, ça va beaucoup plus loin que ça. Tout le film se déroule en banlieue de Casablanca et vient nous expliquer comment ces jeunes, à travers la musique, à travers le rap, vont réussir à s'émanciper et à se créer une vision politique, une vision du monde, une vision contestataire. Le film est passionnant. En plus, Nabil Ayouch, lui, justement, a travaillé dans ce genre de centre, à aider des jeunes. La Positive School qui est dans le film, elle existe pour de vrai. Rien de plus passionnant.
Fait, oui, c'est ça. Exactement. La fondation.
Exactement. Et du coup, voir ça dans cette période si troublée politiquement, voir des jeunes qui prennent à bras le corps des sujets politiques et qui arrivent à travers la musique, à travers le rap, à en faire quelque chose de contestataire, de puissant et de profond. On sous-estime le pouvoir politique des jeunes et c'est justement eux qui peuvent amener le véritable contre-pouvoir dont on a besoin. Et ce film le montre.
Oui, il a casté des gens, des jeunes de Sidi Moumen, donc un quartier un peu, pas forcément un problème, enfin, on n'est pas chez les riches, on va dire. Et du coup, il leur fait jouer des rôles. Parce qu'il y a des fois, on se dit, tiens, ça a l'air d'être des comédiens professionnels. Il a improvisé des rôles avec des gens qui sont de ces quartiers-là. Et
C'est des gamins de la Positive School, justement. C'est des gamins qui étaient dans son centre.
Et du côté des filles, notamment, c'est impressionnant parce que ça prouve que le rap est un monde en soi et qu'on peut être voilé et faire du rap, ou en tout cas en avoir envie et comment s'émanciper de certains systèmes patriarcaux. Voilà, c'est un film très réussi, très populaire. Nabil Ayouch, quoi.
À voir, une petite révolution en route et ça fait du bien. Et puis Franck Vallière, vous aviez un coup de cœur rapidement.
Ça y est, c'est réveillé. Les magnétiques. Les magnétiques, il faut aller voir les magnétiques. Alors, le rock underground des années 80. Si Front de 4-2, Trisomie 21, Marquis de Sade sont pour vous des Madeleines de Proust.
Tout un programme.
Alors, ça y est. Allez, la jeunesse Victor qui parle.
Mais non, mais tu as mélangé Trisomie 21 et Marquis de Sade, j'ai envie de savoir.
J'ai dit rock underground, donc rock underground et Cold Wave. On est au début des années 80. Ce film est exceptionnel. C'est un premier film de Vincent Maël Cardona. Il y a deux triangulaires, une amoureuse pure et une triangulaire platonique dans une relation entre trois hommes, deux frères et leur père. Évidemment, rien ne se passe comme il faut. La musique est au milieu de tout ça. C'est brillantissime. J'ai hâte que ce type fasse un deuxième film et assume son côté plus populaire. Il y a notamment dans ce film un climax absolu d'une déclaration d'amour à la radio qui est, mais absolument génial. Le film reste funeste, mais porteur d'espoir. Il arrive à manier tout ça avec une aisance folle. Mention spéciale aux deux acteurs qui sont donc Marie Collomb et Timothée Robard, qui portaient à lui seul Vif Argent il y a quelque temps. Ils sont tous les deux sublimes, magnifiques. On est amoureux d'eux, on est avec eux, on est bien avec eux dans cette histoire d'amour contrarié. Voilà.
On écoute.
À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est qu'on allait passer à l'antenne.
Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours.
Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon.
Je crois que je suis amoureux.
T'es à Berlin, tu fais de la radio, t'es exactement là où tu dois être.
Complique pas tout.
Mais en plus, c'est un film qui parle de radio, que demander de plus?
Ouais.
Et pour terminer, juste brièvement un mot sur un documentaire qui est sorti qui s'appelle Brother, d'Arnaud Fournier-Mongieux, qui raconte l'histoire du frère François, un jeune ingénieur français qui a tout quitté pour rejoindre la communauté des franciscains du Bronx aux États-Unis. C'est un très beau récit fraternel, humain et plein d'espoir. Voilà, j'avais envie de vous en parler.
J'aime les pauvres. J'ai toujours aimé les pauvres.
Quand j'étais petit, la seule chose qui m'intéressait, c'était le mendiant à l'entrée de l'église. Dans les pauvres, il y a cette innocence qui ne veut pas mourir. Dans chaque personne, il y aura toujours un enfant.
Merci à tous les deux, Franck Vallière et Victor Bonnefoy.
Merci,
c'est
merci à vous, Laurie. Enfin, que... oui. Toujours un plaisir de vous voir. Comme ça, le gentil. Week-end, d'un seul coup, est ensoleillé.
Je trouve qu'on ne remercie jamais assez, Laurie.
Oui. Oh là là, bah, écoutez, merci, je trouve aussi. Vous faites bien. Non, je rigole, évidemment. Merci à tous les deux. La semaine prochaine, la pièce rapportée sortira en salle. On en parle en début d'émission avec Anaïs Demoustier. Je vous rappelle qu'elle partage l'affiche aux côtés de Philippe Catherine et Josiane Balasco. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain en compagnie d'Yvan Attal pour parler des choses humaines. En attendant, continuez d'aller au cinéma et de nous écouter sur Europe 1. Bon week-end.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.